Il est 8h sur France Inter. Voici le journal de Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. Le numéro 2 d'Air Canada est pressenti pour reprendre le manche d'Air France KLM. Sentiment mitigé chez les syndicats. Le futur patron sera surtout attendu sur la question des salaires. La catastrophe de Gênes relance la question de la sécurité des infrastructures. En Italie, le gouvernement rejette la responsabilité sur la société d'autoroute. On en parle avec notre envoyé spécial Delphine Evenoux. En France aussi, les ponts ont besoin de sérieux investissements. Reportage à Gennevilliers. Près de Paris. En Italie, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, se retrouve une nouvelle fois en première ligne. Nous verrons comment le chef de la Ligue inspire l'extrême droite française. L'Italie dans tous ses états. On en parle aussi avec vos invités entre 8h20 et 9h. Eric.
Oui, comment les deux hommes forts du gouvernement italien, Salvini et Di Maio, récupèrent la catastrophe de Gênes pour faire de la politique. Deux invités, effectivement, pour en parler ce matin, l'historienne spécialiste de l'Italie, Ludmila Accone, et puis la journaliste italienne, Eva Morletto. Vos questions sur l'Italie, c'est dès maintenant. Vous nous appelez au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
Dans ce journal, un témoignage bouleversant sur les abus sexuels en Libye. L'un des naufragés recueillis par l'Aquarius en Méditerranée s'est confié à notre reporter. Nous irons aussi à Chamonix, voir la montagne qui s'effrite sous l'effet du réchauffement. Et puis dans la rentrée littéraire, le choix d'Ilan Amor Youssef, c'est la biographie de l'actrice Maria Schneider.
France Inter.
Après 3 mois et demi de crise, le conseil d'administration d'Air France KLM se réunit en plein mois d'août pour remettre un pilote dans l'avion. L'ancien PDG Jean-Marc Janaillac a démissionné en mai après avoir été désavoué par les salariés sur les salaires et après quelques 15 jours de grève qui ont coûté plus de 300 millions d'euros. Trouver un accord sur les salaires, ce sera donc le premier défi du futur directeur général. L'État, actionnaire à 14,3%, aurait décidé de ne pas écouter cette fois les réticences exprimées par le premier syndicat de pilotes. Le SNPL s'est déclaré hostile à l'arrivée d'un patron nord-américain car après avoir exploré plusieurs pistes, c'est bien Ben Smith, le numéro 2 d'Air Canada, qui est pressenti et il doit s'attendre à un accueil plutôt froid, Maxime Debs.
Benjamin Smith, ça ne sonne pas français et c'est la première chose qui fait tiquer. Certains y voient une atteinte à la souveraineté de la compagnie, même si pour Grégoire Aplincourt, c'est là un faux débat. Il est le secrétaire général du SPAF, le deuxième syndicat de pilote d'Air France.
Là n'est pas la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, on s'est clairement exprimé pour avoir autre chose qu'un énarque à la tête d'Air France, quelqu'un qui aujourd'hui est un objectif à atteindre avec Air France, pas celui de prendre 3 années avant sa retraite. Après, savoir s'il faut nommer un Français, un étranger, enfin bon.
Canadien ou Français, même combat de toute façon, qu'il vienne d'ici ou d'ailleurs, l'heureux élu devra apaiser les tensions dans la maison à l'heure où les salariés du sol au cockpit réclament des augmentations. Sujet compliqué, d'autant qu'au creux de l'été, le conseil d'administration se serait décidé à multiplier par 3 le plafond de rémunération du futur patron. Terrain glissant, attention, attention.
Il faut peut-être admettre qu'à un moment donné, il faut proposer un salaire qui attire la bonne personne au bon poste. Je peux l'admettre. Maintenant, sûr que si un PDG arrive en disant bah, « Écoutez, moi j'ai pris un salaire 3 fois plus élevé, en conséquence, j'ai pas les moyens de venir m'occuper de vous », c'est sûr que socialement, là, tout le monde comprendra que ça serait difficilement acceptable.
Le SNPL, premier syndicat chez les pilotes, a déjà prévenu, sans réelle négociation, le prochain PDG s'exposera, qu'importe son origine, qu'importe son nom, à une grève longue à la rentrée, en guise de baptême de l'air.
Le bilan toujours provisoire de la catastrophe de Gênes s'élève à 39 morts, dont 4 Français, parmi eux 3 jeunes d'une vingtaine d'années, partis d'Occitanie pour un festival de musique. Les recherches se poursuivent dans l'amas de béton et de métal effondré, et alors que plus de 600 personnes qui habitaient sous l'autoroute ne peuvent regagner leur toit. En Italie, le viaduc de Gênes est le 5e pont à s'effondrer en 5 ans. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Gênes. L'une des premières annonces du gouvernement italien hier, c'est la révocation de la concession de la société d'autoroute.
Oui, avec cette phrase très claire à la sortie d'un conseil des ministres extraordinaire hier soir en préfecture de Gênes. « Nous ne pouvons pas attendre la justice pénale », a lancé le président du conseil italien et ancien professeur de droit Giuseppe Conte. « Nous voulons que les citoyens puissent voyager en sécurité », dit-il. Autostrada per l'Italia, qui gère le réseau, est accusé d'avoir négligé la maintenance et failli à ses obligations d'entretien. On attend encore des précisions sur cette rupture du contrat. Est-ce qu'il s'agit seulement du tronçon de Gênes ou bien de l'ensemble l'ensemble du réseau. Pas encore de réponse, mais la presse italienne rappelle ce matin que cette décision pourrait coûter 20 milliards d'euros à l'État italien. La société autoroutière, qui est en pleine tempête, continue de se défendre par communiqué, assure avoir mené des contrôles réguliers, largement supérieurs aux normes exigées, et promet de reconstruire le pont en 5 mois. Et pendant ce temps, c'est une autre polémique qui continue de faire transpirer le mouvement 5 étoiles présent dans le gouvernement de coalition, car le parti s'opposait depuis des années au projet de contournement de Gênes qui devait permettre de désengorger le pont Morandi, un viaduc viable selon certains élus. Le ministre des Transports lui-même, Danilo Toninelli, assurait il y a 2 semaines que le contournement n'était pas nécessaire.
Merci Delphine Evenou, avec l'appui de notre technicien Romain Lucquins. Notez que le principal actionnaire de cette société d'autoroute, le groupe Atlantia, possède aussi la SANEF, les autoroutes du nord de la France. La sécurité des ponts se pose aussi en France. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a rappelé hier qu'elle devait présenter à la rentrée une loi de programmation pour les infrastructures. Et il y a urgence à en croire un audit remis le mois dernier et passé un peu inaperçu. Un tiers des quelques 12 000 ponts français ont besoin de réparation. 7 d'entre eux présentent même à terme, si rien n'est fait, un risque d'effondrement. Autant dire que l'inquiétude gagne les riverains et les automobilistes, comme à Gennevilliers, près de Paris. Le viaduc qui permet à l'autoroute A15 de traverser la Seine est en travaux depuis qu'un mur de soutènement s'est affaissé en juin, Sébastien Sabiron.
2 kilomètres de long, 8 voies de circulation suspendues au-dessus de la Seine entre Gennevilliers et Argenteuil. C'est là, à l'entrée du pont, qu'un mur de soutènement s'est affaissé. Diane vit à proximité.
Il y a un ami qui a vu tout qui était écroulé, il a prévenu les pompiers et dans l'heure qui suivait, ils avaient tout condamné. Bah, on voyait toute la terre, enfin, comme s'il avait tellement plu que tout s'effondrait, quoi. Et là, c'est juste colmaté maintenant.
Un colmatage qui ne rassure pas vraiment Émilie. Elle emprunte le pont régulièrement.
Je le prends et il fait peur. Je passe un camion 2-3 fois par semaine. Il est haut, les barrières sont pas au top. Sans tout ça, déjà, il faisait peur.
En 2016, une autre partie du pont, plus en amont, avait déjà laissé échapper des mètres cubes de sable lors de fortes pluies. Malgré ses demandes auprès des services de l'État, le maire d'Argenteuil, Georges Motron, n'avait jamais obtenu de résultats d'expertise.
Lors de la visite de la ministre des Transports, il y a quelques semaines de cela, des techniciens et ingénieurs ont bien avoué que toute l'expertise n'avait pas eu lieu telle qu'elle aurait dû avoir lieu. Donc c'est la première fois que j'entends cet aveu-là. Heureusement qu'on a bloqué la circulation avant que des phénomènes du type Gênes ne se passent.
Rien de comparable selon la direction des routes d'Île-de-France. Le viaduc est en parfait état, dit-elle. Il ne repose pas sur la partie qui s'est affaissée. Les 200 000 usagers du pont devront circuler sur 2 voies d'ici à la fin des travaux en 2019.
En Italie, la catastrophe de Gênes a encore confirmé le statut d'homme fort du gouvernement du très droitier Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur. Le chef de la Ligue impose son style depuis des mois avec ses sorties hostiles aux migrants ou à l'Europe. Un homme que l'extrême droite française connaît bien et qui inspire le Rassemblement National, Élodie Forêt.
Entre Matteo Salvini et Marine Le Pen, une réelle amitié, de l'admiration aussi. Lors de leur première rencontre en 2013, Salvini demande un selfie. Depuis, il s'invite régulièrement à leurs événements, comme en 2014, devant le congrès du FN.
Vive l'Europe de Pop et vive le Front National.
Matteo Salvini,
merci,
couvé du regard par Marine Le Pen, à cette époque, elle lui conseille de dépasser le régionalisme, transformer la Ligue du Nord en Ligue tout court. La stratégie paie jusqu'au succès. Alors aujourd'hui, autour du Rassemblement National, de s'inspirer de Salvini, un modèle et un allié de poids pour les élections européennes. Salvini en première ligne pour le politologue Erwan Lecoeur.
On a Salvini qui est très en forme et en force. Marine Le Pen l'est un peu moins aujourd'hui. Néanmoins, la ligne que tous ces gens-là prennent est quand même celle du Front National, l'anti-élite nationaliste d'abord.
Une Europe du réel contre une Europe des élites que l'on prône désormais de chaque côté. Une alliance portée par les leaders mais aussi par les jeunes. Génération Nation et Lega Giovanni réunis en juillet à Menton comptent bien remettre le couvert à la rentrée. Plus people, le couple que forment Marion Maréchal et un proche de Salvini, Vincenzo Sofo. Une nouvelle génération prête à conquérir le pouvoir et consciente qu'elle ne pourra pas gagner seule.
Après 5 jours d'errance en Méditerranée, l'Aquarius est à quai. Les passagers ont salué par des cris de joie l'arrivée du navire humanitaire dans le port de Malte hier.
Et ces exilés ont souvent vécu au départ de Libye une traversée de l'enfer. Et bien ce matin, nous avons choisi de diffuser un témoignage bouleversant.
Un témoignage très cru aussi sur les abus sexuels infligés aux migrants. Attention, ce n'est pas pour toutes les oreilles. oreilles. Des sévices infligés aux femmes et aux hommes, comme ce naufragé qui s'est confié à notre reporter Maureen Mercier.
Il s'est décidé à briser le tabou, à révéler ce que personne ici sur le pont n'ose évoquer et que pourtant tout le monde connaît.
Ils ont demandé aux deux personnes de se sodomiser.
Les violences sexuelles subies par les hommes.
Il achète un conteneur, il met chez lui, il vous fout dedans. Devant tout le monde, il vous demande de vous caresser, mais ils sont contents. Tu n'as jamais vu. Tous sont là avec des téléphones, ils filment.
Et si vous refusez ?
Ils vont vous prendre, ils vont vous attacher et ils vont vous sodomiser.
La deuxième fois qu'on lui inflige cela, c'est lorsqu'il tente de s'évader.
En plein désert, ils nous ont rattrapés.
Celui qui les guidait ?
C'est lui qui a subi des abus. Ils prennent des comprimés pour booster leur libido, pour faire du mal. Il était bousillé, le sang partout. Je ne sais pas s'il a survécu.
Lui a été épargné, il n'a pas été violé, mais contraint, comme tant d'autres en Libye, à devoir assister à ces scènes cauchemardesques.
Je me sentais mort. Je me disais si l'idée leur traverse l'esprit de passer sur moi. C'était traumatisant. On peut continuer après.
Trop difficile de poursuivre, mais l'essentiel est dit. À bord de l'Aquarius, Maureen Mercier, France Inter.
Les passagers de l'Aquarius espèrent maintenant obtenir le statut de réfugiés dans les 5 pays qui proposent de les accueillir, dont la France. Des officiers de l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides, sont partis interroger les possibles candidats. La presse américaine a décidé de répliquer unie aux attaques de Donald Trump. De nombreux éditorialistes prennent la plume aujourd'hui pour répondre au président américain qui avait taxé les médias d'ennemis du peuple. Grégory Phillips.
Le New York Times, mais aussi le San Antonio Express, des hebdomadaires locaux, des grands quotidiens nationaux, au plus petit, au total 350 journaux, publient donc un éditorial différent, mais avec un même message. La presse n'est pas l'ennemi du peuple, contrairement à ce que Donald Trump répète meeting après meeting, tweet après tweet. Ainsi, dans le Saint-Louis Post, il est écrit que le président inflige peut-être des dommages irréparables à la démocratie avec ses attaques. Nous avons choisi de défendre ce en quoi nous croyons, écrivent les journalistes du Denver Post. Le New York Times, lui, s'adresse à ses lecteurs. Une presse libre a besoin de vous. Abonnez-vous, dites-nous quand nous travaillons bien. Critiquez-nous quand il le faut. Mais désigner les journalistes comme des ennemis, c'est dangereux. Un point, c'est tout. Quelques journaux, toutefois, ont choisi de ne pas participer à cette opération. Le Wall Street Journal, par exemple, qui pense que ce tir groupé contre l'actuel président n'est pas le meilleur moyen de convaincre ses électeurs. Donald Trump, lui, pour l'instant, n'a pas réagi à ce coup éditorial. Mais il y verra sans aucun doute une attaque en règle de la part des journalistes qu'il aime désigner comme étant des producteurs de fake news.
Il est 8h12 après la canicule, Sarah. Les effets du réchauffement climatique sont particulièrement visibles aussi en montagne.
À Chamonix, les parois du Mont en Vert s'effritent littéralement alors que la mer de glace recule presque à vue d'œil. Les alpinistes doivent changer d'itinéraire pour éviter les éboulements, Laurence Méride.
Bonne journée à tous. Vous êtes à 1913 mètres d'altitude.
Installé sur la terrasse du Mont en Vert avec son micro et son enceinte, Ludovic Ravanel s'adresse à la centaine de visiteurs venus admirer la mer de glace et ses montagnes. La glace fond à vue d'œil, mais le chercheur au CNRS insiste avant tout sur l'effondrement de la montagne, conséquence directe de la fonte des glaces.
Les parois rocheuses réagissent tout autour de nous avec ce que l'on appelle la dégradation du permafrost, le réchauffement des terrains gelés en permanence. Ce réchauffement dégrade la glace qui a tendance à cimenter les montagnes. Et quand on enlève le ciment des montagnes, c'est des morceaux de roche qui se déstabilisent.
On voit un petit éboulement en direct. Ça, c'est assez régulier en ce moment, en lien avec l'été caniculaire que l'on a eu ces derniers temps.
Les deux derniers kilomètres de la mer de glace sont gris, couverts de cailloux, de gravier, de sable. Ce sont des détritus de la montagne qui lui tombent dessus. Plus le glacier perd en épaisseur, moins il exerce de pression sur la montagne et plus elle s'écroule. Fabienne observe la mer de glace à travers de longues vues. La dernière fois qu'elle s'est retrouvée sur la terrasse du Mont en Vert, c'était il y a 30 ans.
Il y avait la glace qui descendait vraiment jusqu'en bas. On était à deux doigts de marcher dessus. Et là maintenant, quand je vois que ça arrive vraiment entre les deux montagnes, c'est désolant.
Il fallait descendre 465 marches au début de l'été pour atteindre la mer de glace. Aujourd'hui, il y en a 50 de plus.
La rentrée littéraire fait de la place au premier roman cette année. Quelques 600 titres sont annoncés en librairie et parmi eux, le livre que consacre la journaliste du Monde Vanessa Schneider à l'actrice Maria Schneider, sa cousine morte en 2011, qui reste associée au Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. On en avait reparlé à l'occasion de la vague MeToo Maria Schneider n'avait pas été avertie de la scène de viol qui a fait scandale à la sortie du film en 1972. Elle avait 19 ans et ne s'en est jamais tout à fait remise, Ilana Mor-Youssef.
Quand elle était petite fille, Vanessa Schneider conservait dans une pochette en carton rouge les articles, les photos, les interviews consacrées à sa cousine Maria Schneider. Puis elle a grandi, elle est devenue journaliste au Monde. La belle Maria est morte, épuisée par une vie d'excès, sans avoir écrit le livre qu'elle voulait écrire avec sa cousine Vanessa.
Son idée, c'était qu'on ne se souvienne pas d'elle uniquement pour cette fameuse scène du dernier tango à Paris, qui l'a en quelque sorte marquée au fer rouge. L'idée, c'était pas de faire une biographie, mais c'était un peu de raconter qui elle avait été et qui elle avait été dans ma vie.
Vanessa Schneider a 4 ans quand sort le dernier tango à Paris. Elle grandit dans une famille où l'on croit dur comme fer à la Révolution.
Oui, il y avait une forme d'austérité, mais ça qui était directement lié à l'engagement maoïste de mes parents, de mon père en particulier, qui appartenait à un groupe à l'époque semi-clandestin où le mariage n'était pas autorisé, n'était pas autorisé non plus d'avoir des enfants, où mon père apprenait le chinois, ou comme je le raconte dans le livre, la première fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est à la mort de Mao, alors qu'il avait déjà quitté le militantisme.
La révolution n'a jamais eu lieu et Maria Schneider est devenue des années après sa mort l'emblème de ces femmes maltraitées au cinéma.
Les vacances ont été courtes pour les champions du monde. 4 footballeurs des Bleus ont remis les crampons hier soir pour la finale de la Super Coupe d'Europe, remportée par l'Atlético sur le Real Madrid, 4-2. Pas très en forme, hein, Griezmann, Varane et Hernandez. Et c'est Benzema, l'absent du Mondial, qui a marqué pour le Real.
C'était le journal de Sarah Guibaudot. Le temps de ce jeudi avec vous, Stéphanie Fromentin. Une perturbation s'infiltre par l'Ouest.
Oui, alors que le soleil envahit la majeure partie du territoire, une zone résiste encore, la Bretagne. Elle progresse même, cette zone, cet après-midi, et étend son influence nuageuse vers la Normandie et la côte d'Opale. Cette zone est soutenue par une perturbation qui débarque par la pointe bretonne, alimentée par quelques pluies faibles, mais continue en journée, et une bonne couverture nuageuse près des côtes. Ce ciel gris pour la journée épargnera le reste du pays, du bassin parisien au bassin méditerranéen, mais aussi des frontières du Benelux jusqu'à l'embouchure de la Garonne. La journée y sera calme et ensoleillée. Quelques averses réussiront aussi à tomber en montagne sur les Alpes, les Pyrénées, le relief corse, parfois accompagné de quelques coups de tonnerre.
Et le mercure continue de grimper.
S'il fait un peu frais ce matin avec 16 degrés en général, cet après-midi il grimpera parfois de 6 degrés au-dessus des valeurs de saison. Près de la Manche et sur les côtes bretonnes, vous ne dépasserez pas les 18 à 23 degrés. Il fera 19 à Saint-Brieuc, 20 à Concarneau, 22 à Vannes et 23 à Saint-Nazaire. Alors que des pays de la Loire au bassin parisien, du centre au Grand Est, vous pourrez atteindre les 26 à 30 degrés, voire 33 en plaine d'Alsace. Il fera 25 à Biarritz, 27 à Tarbes, 29 degrés à Lille et Montpellier, jusqu'à 31 à Marseille, 32 à Paris, jusqu'à 34 à Argenton-sur-Creuse.
Et merci d'écouter France Inter. À suivre Géopolitique.